Europe 1.
Soyez les bienvenus dans la France Bouge Academy. Ici, vous savez que vous avez le pouvoir, vos projets sont à la une et ce sont eux qui font l'actualité, car nous croyons que le monde ne change pas que par les initiatives grandes. Nous avons aussi l'ambition de regarder celles qui sont plus petites. Ce sont toutes ces bonnes idées mises bout à bout qui font que la société évolue. Si c'est votre cas, évidemment, vous n'hésitez pas et vous nous écrivez, Céline.
Oui, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Oui, on reçoit tout. On étudie tout, vous êtes d'ailleurs très nombreux, alors soyez patients, hein. On vous remercie d'y croire avec nous. Pour vous accueillir, une équipe est mobilisée. Bonjour Elisabeth Assayag.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Nos experts sont là aussi. Emmanuelle Lévy, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Directeur général de 360 Capital, merci d'être avec nous. Gilles Vanderpotten est juste à côté de vous, bonjour Gilles.
Bonjour à tous.
Vous êtes directeur général de Reporters d'Espoir et de la France des Solutions et je vous présente la toute première candidate qui est avec nous aujourd'hui, Claire-Anne Bourgois-Bouvier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous avez 23 ans et vous avez créé Damoé. Damoé, c'est un bureau d'études qui propose en fait aux communes de les aider à opérer une transition écologique et environnementale. Bureau qui s'adresse d'abord au secteur de la montagne. Vous allez nous dire pourquoi et quelle est votre ambition. Vous avez bien sûr 1 minute 30.
Merci beaucoup. Alors, donc d'abord, une donnée. Aujourd'hui, la montagne est le milieu naturel le plus impacté par le réchauffement climatique, environ 1 degré de plus que le reste du territoire. Donc, pour continuer à profiter d'une neige naturelle le plus longtemps possible, il faut agir. Voilà, simplement. Donc, Damoé est né de ce constat, donc D-A-M-O-E. C'est un bureau d'études pour la protection environnementale des acteurs de montagne. Alors Damoé s'adresse à un très grand nombre d'acteurs, vous l'avez mentionné, merci. Dans un premier temps, les collectivités territoriales, pour les accompagner et structurer peut-être davantage leur politique de transition environnementale. Aussi, sur un très grand spectre, les acteurs de montagne, donc les écoles de ski, les domaines skiables, les offices de tourisme, pour leur permettre de peut-être diversifier leurs actions et de notamment appliquer le concept de petits skieurs verts. Donc concrètement, Damoé propose des prestations d'études d'impact carbone, de diagnostic de mobilité durable, d'études de requalification paysagère, de la communication de transition environnementale, des schémas directeurs et l'application personnalisée du petit skieur vert. Donc pour finir, Damoé, c'est un bureau d'études qui travaille pour changer l'image d'une écologie clivante et moralisatrice. Et ça, on est très fort là-dessus, ça nous tient à cœur. Et on agit pour la protection de nos montagnes. Voilà, merci.
Et Damoé, ça veut dire dans une montagne écologique. Hein. C'est
et
pour ça que ça s'est...
Et aussi, voilà, un autre sens, Damo, en patois savoyard, pardon, veut dire en haut de la montagne. Donc il y a une double...
Une double signification, et c'est bien de le signaler. On va tout de suite voir ce qu'en pensent nos experts. Gilles et Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de Damoé?
Bah, bravo pour l'idée.
Merci.
Je connais beaucoup de cabinets de conseil en RSE, mais je ne connaissais pas. Pour moi, vous êtes le premier cabinet dédié à cette question de la montagne. Et je me demandais, vous parlez du petit skieur vert, de quoi s'agit-il ?
Alors, c'est donc une marque aujourd'hui qu'on a déposée. Elle nous appartient. C'est un concept que l'on veut étendre pour que tous les acteurs de la montagne puissent s'investir dans une politique de transition. Donc, les restaurateurs, par exemple, en proposant un menu enfant, non pas nugget frites, mais un menu enfant local, en proposant des produits pour mettre en valeur l'artisanat.
Donc c'est un petit logo qu'on va retrouver, voilà, par exemple sur la porte ou sur la vitre
exactement.
Du restaurant en question.
Les écoles de ski aussi, par exemple, pour proposer un spectacle à la fin de la semaine de vos vacances, un spectacle avec pourquoi pas une problématique sur l'environnement. Donc voilà, c'est le petit skieur vert, c'est tous les acteurs qui peuvent s'investir dans une station pour montrer qu'il y a vraiment une politique là-dessus.
Emmanuel ?
Les Alpes touchent plusieurs pays comme l'Italie, la Suisse, l'Autriche. Quand est-ce que vous pensez de... aller proposer la même solution, parce que tous les stations de ski ont ce problème.
Oui, alors c'est une évidence. Pour le moment, on est très jeune, donc c'est vrai qu'on n'avance pas à pas et on ne veut pas grandir trop vite pour ne pas se brûler les ailes. Mais c'est la richesse de la montagne, c'est ce que vous disiez, c'est pluriculturel. Et évidemment, sur le long terme, il y a des grandes perspectives. Dans un premier temps, vous disiez que les pays frontaliers, les Alpes, c'est une grande richesse. Donc oui, bien sûr, après, aujourd'hui, pour le moment, on n'est plus local. On est installé au cœur de la Savoie et on s'adresse principalement pour le moment aux Alpes.
Alors, prenons un cas concret. Vous allez voir une station de ski, je ne sais pas, les Deux Alpes par exemple. Qu'est-ce que vous leur proposez ?
Alors, on a une volonté de s'adapter à notre client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe beaucoup de choses et c'est très bien pour l'écologie, mais c'est parfois très normé. Et donc nous, on va voir ce que vous disiez, donc que ce soit les maires par exemple ou les directeurs d'investissement dans ces stations. On leur dit de quoi avez-vous besoin ? Parce que pour nous, chaque station est spécifique. Les Deux Alpes a un glacier, donc il y a peut-être une problématique sur le glacier Deux Alpes qui est spécifique et qu'une autre station n'aura pas. Donc on ne va pas vous vendre une prestation typique, mais on va vraiment venir vous écouter. Et donc on peut travailler sur les déchets, bien sûr, c'est très connu, mais donc sur les circuits courts, sur la mobilité en montagne, qui est primordiale pour limiter vraiment les émissions de gaz à effet de serre. Donc, pas de réponse
tout,
claire.
Tout est ouvert.
Et c'est la richesse.
Gilles ?
Vous hiérarchisez quand même ? Enfin, quelles sont les sources les plus importantes d'économie d'énergie ou d'allègement de l'empreinte écologique en montagne ?
Alors, aujourd'hui, il y a déjà des études qui ont été faites. Quand on va en montagne, 70% de la pollution est liée au transport. Donc, effectivement, c'est majeur. Les solutions sont en train de se faire. On appelle ça les ascenseurs valéens. Donc, par exemple, si vous allez aux Arcs, concrètement, vous pouvez prendre un funiculaire. Mais c'est des solutions qui sont très coûteuses, qui nécessitent énormément d'investissements. Donc en fait, peut-être nous, on essaye d'être en amont de ces démarches-là qui sont déjà très importantes et très structurelles pour une station et proposer des étapes avec des peut-être moins grandes solutions, mais qui sont plus facilement applicables dans le quotidien d'une station.
Emmanuel ?
Mais donc, on peut imaginer aussi de la mobilité électrique autonome ?
Bien sûr.
Qui puisse réduire donc le besoin, c'est plutôt sur la mobilité, le premier use case, on va dire.
Oui, et c'est aussi quelque chose, aujourd'hui on a la chance, enfin peut-être pas en ce moment, mais le train est très développé en France. Les stations sont relativement bien desservies, mais donc il y a des problèmes, on appelle ça la rupture de charge. C'est un peu technique, mais concrètement vous devez sortir de votre train pour prendre un bus. S'il y a 2h30 pour attendre le bus, tous autant que nous sommes, ça va nous refroidir. Donc il y a vraiment un travail sur ça par exemple, mais qui se fait avec beaucoup d'acteurs, puisque les transports touchent les régions, touchent les collectivités de communes. Donc c'est voilà, une synergie à opérer qui n'est pas évidente, mais auquel il faut réfléchir.
Et il faut soutenir Damoé. Hein. C'est tout nouveau, ça s'est créé le 1er octobre 2019. Donc le projet est effectivement très récent, mais il y a beaucoup d'ambition. Et l'idée, c'est évidemment de le faire à une échelle beaucoup plus importante et d'aller dans d'autres massifs que le massif des Alpes plus tard. Je précise que ça peut aussi se traduire par des toutes petites choses sur les cartes qu'on a, par exemple, et vous m'en parliez au téléphone, sur les cartes qu'on a, les plans qu'on a des stations de ski, il n'y a aucun endroit pour déposer ces déchets. Ben, ce serait tout simplement déjà commencer par les marquer sur les cartes. Ce serait déjà le premier geste citoyen. Merci beaucoup d'être
Merci
venu
beaucoup à vous.
Avec
Merci.
Nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 39.
Europe 1.
C'est Noël et sous le sapin, vous voulez que vos enfants trouvent des jouets écologiques et made in France ? Eh bien, c'est possible avec les mini-mondes. À tout de suite.
La France Bouge Academy, c'est votre rendez-vous. Si vous êtes jeune entrepreneur et que vous souhaitez nous rejoindre, présenter votre projet sur Europe 1, appelez-nous au 3921 ou alors vous nous écrivez par mail. e1-lafrancebouge@europe1.fr, Raphaël.
Et cette entreprise, ce sera peut-être la vôtre demain. Aujourd'hui, c'est Quentin Horry qui est avec nous. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous.
Vous avez 28 ans et vous êtes déjà passé nous voir l'année dernière hein, avec des jeux de société, les jeux Combat de Coq qui cartonnent. Mais là, c'est une autre aventure dans laquelle vous vous lancez, les mini-mondes, pour que le Père Noël mette sous le sapin des jouets en plastique recyclé, made in France. Vous avez 1 minute 30 pour le convaincre. Il vous écoute. Et nous aussi.
Je vais essayer de convaincre le Père Noël. Alors avec Marine, on a lancé les Mini-Mondes. C'est une nouvelle marque de jouets pour enfants en plastique recyclé, fabriquée en France, pour faire découvrir le monde aux enfants. On est parti de deux constats. Le premier constat, il est écologique. C'est que le jouet, c'est 75 000 tonnes de déchets par an, rien qu'en France. Donc il y avait un vrai sujet avec un paradoxe sur le plastique dont on n'arrive pas à se débarrasser. Il y a un deuxième sujet, c'est qu'on a rencontré 200 parents pour créer le projet. Et les parents nous ont dit, en fait, on a envie de transmettre des valeurs nouvelles à nos enfants. Et on s'y retrouve pas aujourd'hui dans le monde du jouet. Alors exit les princesses, les pompiers, les policiers, place autour du monde. Donc on a créé l'aventure des mini-mondes. Ça commence par un van et un premier livre, c'est un point de départ. Et tous les deux mois, on va proposer aux enfants une nouvelle destination. Ça peut être Bali, l'Islande, le Chili, Tokyo. Et à chaque fois, on va trouver des jouets et on va trouver des livres, de la musique, des recettes, vraiment tout un univers un peu éducatif pour transmettre des valeurs nouvelles aux enfants. Côté fabrication, on a tout fait vraiment complètement différemment. On récupère des déchets industriels, de l'agroalimentaire, qu'on transforme pour en faire du jouet. Donc c'est des jouets en plastique recyclé qui sont biodégradables et on arrive à faire tout ça en Bretagne. Chose qui se fait plus du tout dans le monde du jouet, là où tous les jouets sont en Chine. Donc on a une fabrication française, du plastique recyclé, on dédie 1% de nos bénéfices pour faire voyager les enfants qui sont jamais partis en vacances de leur vie. Et tout ça, on est capable de le faire parce qu'on a une distribution qui est uniquement digitale et ça c'est l'axe fort de notre projet. C'est un succès qui est né du web, on a fait plus de 300 000 vues sur nos vidéos, on a vendu plus de 1000 coffrets avant qu'ils existent. Aujourd'hui, on en a vendu 2000 et on en a 3000, donc il en reste très peu. Donc à l'approche des fêtes, si vous voulez commander vos mini-mondes, bah, c'est le moment. Voilà pour le petit mot de la fin. Et petite anecdote, la famille s'appelle la famille Duchemin dans notre aventure. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on ferait pas pour passer
Mon
sur Europe 1
Dieu, ils vont faire la route, dites-moi. En tout cas, c'est ce qu'on espère. La famille Duchemin, bah, je suis ravie d'avoir
oui,
des cousins voyageurs.
Je vois ça swing chez les Duchemin.
J'adore les voyages, ça tombe très bien. Bon alors, qu'en pensent nos experts? Tiens, on va voir tout de suite Emmanuel et Gilles.
Bah, vous l'avez dit, il y a 75 000 tonnes de déchets par an, c'est des déchets plastiques.
Ouais, exactement.
Enfin, ça paraît énorme.
Ouais, ça paraît énorme, mais en soi, finalement, c'est peu dans le sens où on a beaucoup de mal justement à gérer la filière du jouet.
Voilà.
Entre les piles, les différents types de plastique, etc.
Et beaucoup de nos rebuts, d'après ce que j'ai lu, sont exportés en Malaisie, en Thaïlande, etc. pour y être recyclés et parfois pour revenir à nous sous une autre forme. Vous garantissez que votre plastique, il est collecté et transformé en France, en fait.
Ouais, exactement.
En Bretagne, à Poitiers aussi, j'ai vu.
Non, la partie. Alors, on travaille avec un laboratoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur la partie certification du jouet. On travaille avec un laboratoire, un compondeur. Donc, c'est une personne qui, justement, agrège différentes sources de déchets industriels, un peu de déchets de bois. Et donc, ça, c'est fait dans la région, plutôt dans le coin de Poitiers. Et c'est après injecté, donc la partie usine, qui est à la forêt Fouesnant, en Bretagne.
Voilà. Emmanuel.
Est-ce que c'est compliqué de produire un plastique recyclé, à la fois côté prod, vraiment, et scale-up, et à la fois. Côté normes, donc est-ce qu'il y a, vous avez des problèmes de normes?
Ouais, c'est un des sujets qui est le plus normé, parce que les enfants mettent les jouets dans leur bouche, donc il faut être très vigilant, d'où le fait de travailler rapidement avec un laboratoire et un bureau d'études pour vraiment cette partie matière. C'est compliqué d'une parce que c'est plus cher, le plastique recyclé, assez bizarrement, et c'est compliqué aussi parce que demain, si on veut des très très grandes échelles, il faut pouvoir sécuriser son sourcing, et donc là, il y a des vrais enjeux pour nous. On a encore un peu le temps parce qu'on est sur un début d'aventure, mais à 2-3 ans, il faudra rapidement se poser les questions. Ouais.
On n'a pas parlé du prix, c'est important parce que vous vous êtes positionné sur un marché où il y a beaucoup d'offres, mais vous avez décidé d'être au même prix qu'un Playmobil.
Ouais, c'était tout l'enjeu, c'est de se dire que demain on est capable d'être responsable made in France et en même temps d'être grand public. Et pour ça, du coup, on sait que le prix, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on arrive à avoir le même prix qu'un Playmobil parce qu'on est uniquement digital et c'était vraiment l'enjeu. Et ça, c'est la clé de notre modèle. Mais en tout cas, voilà, on veut faire un projet bien fait, mais en même temps grand public.
C'est-à-dire que ce coffret avec le van et les accessoires, c'est aux environs de 40 euros.
Exactement, ouais, exactement. Et si on rajoute après du livre et un petit cahier de jeu, on est autour de 50 euros.
C'est commercialisé depuis le mois de juillet, en précommande, c'est ça?
C'était en précommande au mois de juillet, on a fait 1000 coffrets, on a fabriqué jusqu'à fin novembre, donc c'est tout récent, on a reçu les jouets fin novembre, on en a revendu 1000, et donc voilà, il en reste quasiment 1000 maintenant. Donc ça démarre très fort et on est très contents.
Emmanuel?
Comment vous arrivez à convaincre les enfants? Parce que le Père Noël est partant, je suis sûr. Les enfants?
Exactement. On a vraiment mis la jouabilité au cœur de notre jouet. On s'est accompagné d'un studio de design spécialisé dans le jouet. Donc c'est des bonnes pratiques. Le jouet, vous voyez, tout s'empile, tout s'emboîte, c'est évolutif. On l'a testé avec quasiment autant d'enfants que de parents. Donc on a un discours parent sur le côté écologique, mais on a vraiment aussi une stratégie vraiment enfant. Et le fait de travailler aussi avec du livre et par exemple de la musique, on a créé notre première comptine. Ça nous permet justement d'être à la rencontre des enfants. Et c'est aussi pour nous... clé dans le projet, forcément.
Gilles, pendant que je joue.
Oui, pendant que je joue.
C'est ma famille, c'est la famille du chemin.
Il faut s'en occuper. 100% de vente directe, en fait. Vous disiez 100% de digital, donc c'est de la vente en ligne sur votre site. Est-ce que vous imaginez des canaux, d'autres canaux, où vous voulez, où c'est une manière de garder la valeur pour vous et de vendre à moins cher? Parce que si vous ajoutez l'intermédiaire de la grande distribution, ça va... forcément revenir plus cher.
Clairement.
Mais est-ce que vous avez des voies alternatives?
Oui, exactement. À court terme, on a un premier corner au Louvre, un espace justement pour présenter le produit. Donc oui, le physique va faire partie forcément de la stratégie parce que les enfants ont besoin de voir, ont besoin de toucher. Donc on sait qu'on va y passer. À très court terme, ce qui est génial, c'est qu'en vendant que sur notre site, on apprend aussi beaucoup sur nos clients et on passe des coups de fil aux gens qui commandent pour comprendre comment ils ont découvert, ce qu'ils aiment, etc. Et donc on crée vraiment du lien aussi avec nos clients.
Vous proposez un abonnement, comme vous sortez tous les deux mois quelque chose?
Oui, exactement. L'objectif pour nous, le business model de 2020, c'est de passer sur un format abonnement tous les deux mois avec une nouvelle destination. Donc la clé du modèle ouais, est basée là-dessus.
Là, on s'en va où?
Bali, première étape.
Et après,
on part en Islande. Après, petit crochet par le Chili. Voilà, ça se fait bien. Et puis après, on va laisser aux gens le choix de nous proposer la suite de l'aventure.
Quelque chose me dit que la famille du chemin va s'agrandir, en tout cas avec les mini-mondes. Merci beaucoup Quentin.
Merci
d'avoir été avec nous pour nous présenter ce joli projet. On pense que le Père Noël va sûrement venir vous chercher quelques jouets. Merci à Emmanuel et Lévi qui étaient avec nous, directeurs de 360 Capital.
Merci Raphaël.
Il est midi 48. Europe 1. Une tente gonflable qui se déplie partout et qui est intégralement équipée, c'est possible, sur les terrains d'urgence notamment. C'est bluffant et c'est la solution aujourd'hui avec Elisabeth Assayag. À tout de suite.